VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 16 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer les titres, le coronavirus, la barre des 2000 décès franchis dimanche en Europe, plus de 6000 morts à travers le monde. En République centrafricaine, un casque bleu burundais a été tué dans le centre du pays. Une mission de chef d'État de la CEDEAO attendue cette semaine en Guinée en pleine crise, annonce-t-on à Conakry. Ici aux États-Unis, le favori des primaires démocrates, Joe Biden, s'engage à choisir une femme pour la vice-présidence. En Israël, Benny Gantz, le rival du Premier ministre Benjamin Netanyahou, doit être chargé aujourd'hui de former un gouvernement, a annoncé dimanche la présidence. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La barre des 2000 décès dus au nouveau coronavirus en Europe a été franchie dimanche, portant le bilan à plus de 6000 morts à travers le monde, où les confinements de population et les fermetures de frontières se multiplient. Le point avec Jean-Roger Bion.
Face aux craintes générées par l'épidémie, les principales banques centrales mondiales ont lancé dimanche une action concertée visant à augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités. La réserve fédérale américaine a abaissé ses taux de 1 point pour rassurer les marchés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts, 3199, mais c'est en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2291 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2000 cas supplémentaires en 24 heures. Au total dans le monde, 6420 personnes sont officiellement décédées de la maladie COVID-19, pour 159 844 cas recensés selon l'AFP. En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, la pandémie progresse désormais comme quasiment partout ailleurs. Un premier cas a été diagnostiqué ce week-end au Congo, au Rwanda, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et aux Seychelles. Le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières et l'Afrique du Sud comme le Ghana interdisent l'entrée des ressortissants des pays les plus à risque. Le Maroc a suspendu tous les vols internationaux jusqu'à nouvel ordre, mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués.
Les Américains redoutent l'évolution de la pandémie aux États-Unis, où plus de 3000 cas ont été officiellement déclarés pour plus de 60 morts. C'est un virus très contagieux, c'est incroyable, mais c'est quelque chose sur lequel nous avons un contrôle extraordinaire, a affirmé le président Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le pire est à venir, a déclaré pour sa part le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, Anthony Fauci. La façon dont nous répondrons à ce défi déterminera là où nous nous retrouverons au final. Nous en sommes à un stade très très décisif de l'épidémie, a-t-il ajouté. Le vice-président Mike Pence a affirmé que le dépistage était désormais disponible dans les 50 États américains et que 2000 laboratoires étaient en mesure de traiter les tests du coronavirus beaucoup plus rapidement. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont appelé hier à annuler ou reporter tous les événements publics devant réunir plus de 50 personnes au cours des 8 prochaines semaines. Les écoles ne sont pas concernées, mais les écoles ont déjà fermé dans de nombreuses régions américaines. Plusieurs États et autorités locales ont mis en œuvre leurs propres mesures. Par exemple, le gouverneur de la Californie a exhorté tous les bars et restaurants à fermer, tandis que son homologue de l'Illinois a déclaré leur fermeture jusqu'au 30 mars. Et puis, les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe ont provoqué des scènes de chaos dans plusieurs aéroports, dépassés par l'afflux de passagers à dépister.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République centrafricaine, un casque bleu burundais a été tué dimanche à Grimari, dans le centre du pays, lors d'une attaque de la ville par des membres d'un groupe armé chrétien anti-Balaka, a annoncé le porte-parole de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Alors que des éléments armés anti-Balaka avaient ouvert le feu sur les domiciles du sous-préfet et du maire de Grimari, dans la préfecture de Ouaka, les casques bleus sont immédiatement intervenu pour mettre fin à l'attaque, a détaillé le porte-parole Vladimir Montero dans un communiqué. L'un d'entre eux a été touché par des tirs qui les visaient délibérément, a-t-il précisé. En République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre Thomas Lubanga a été libéré dimanche à Kinshasa après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Arrêté en 2006, il a été condamné par la CPI à 14 ans de prison en 2012 pour l'enrôlement d'enfants soldats dans le conflit en Ituri au début des années 2000. Nathalie Barge.
Thomas Lubanga avait été transféré en décembre 2015 de la Haye vers Kinshasa pour purger la fin de sa peine avec un autre chef de guerre congolais condamné par la CPI, Germain Katanga. Il était le leader de la communauté Emma en guerre avec les Lindous en Ituri lors d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003. Son retour en Ituri est attendu alors que plus de 700 civils ont été tués dans de nouvelles violences depuis décembre 2017. Ces violences sont largement attribuées à une milice mystico-religieuse, la CODECO, active en zone lindoue. Les EMA n'ont constitué aucun groupe d'autodéfense, affirmant s'en remettre à l'autorité de l'État. L'armée a affirmé samedi avoir tué plusieurs miliciens, dont un proche du chef de la CODECO. Des dizaines de personnes ont été tuées depuis début mars dans le territoire de Djougou.
Le parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto accuse le gouvernement du président Paul Biya de tentative d'assassinat, ce que le ministre de la Communication a démenti avec véhémence. Selon René-Emmanuel Sadi, au contraire, les partisans de l'opposant ont molesté un gendarme alors qu'il effectuait une mission classique de renseignement avec ses collègues et qu'il n'était nullement chargé d'attenter à la personne de M. Kamto. En Côte d'Ivoire, quelques 5000 personnes se sont rassemblées dimanche à Yamoussoukro à l'appel de partis d'opposition pour dénoncer un projet de révision constitutionnelle, a constaté un journaliste de l'AFP. Alassane Ouattara, qui a annoncé le 5 mars qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, a dévoilé plusieurs modifications mineures de la Constitution qu'il a fait adopter en 2016. Une mission de chef d'État ouest-africain est attendue cette semaine en Côte d'Ivoire, en Guinée, en pleine crise politique et quelques jours avant la tenue prévue de législatives et d'un référendum contesté sur une nouvelle constitution, a indiqué dimanche des responsables guinéens. La mission est mandatée par la CEDEAO, dont la Guinée fait partie, ont dit ses responsables interrogés. Interrogée par l'AFP, la CEDEAO n'a pas répondu. L'Italien Luca Tacchetto est enlevé avec sa compagne canadienne Edith Blay il y a 15 mois au Burkina Faso et libre depuis samedi, est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Rome, a annoncé le ministère des Affaires étrangères italien, Michel Joseph.
Une source proche de l'ambassade du Canada au Mali avait de son côté déclaré que des dispositions avaient été prises pour que les ex-otages regagnent leur pays respectif. Lucas Tacchetto a atterri à l'aéroport de Campino, fermé aux vols civils en raison de la pandémie de coronavirus, mais il s'agit également d'un aéroport militaire. Ni les circonstances de la libération des deux otages, ni les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés aux environs de Kidal, à près d'un millier de kilomètres du lieu de leur enlèvement, ne sont encore clairement établies. Des informations préliminaires indiquent qu'ils ont réussi à s'enfuir. Edith Blay et Lucas Tacchetto avaient disparu mi-décembre 2018 alors qu'ils traversaient le Burkina Faso. Âgés d'une trentaine d'années, le couple se dirigeait en voiture vers Ouagadougou à partir de Bobo-Dioulasso, à plus de 360 km de la capitale, quand leur trace a été perdue. Ils comptaient se rendre au Togo pour un projet humanitaire avec l'organisme Zion Gaia.
En Israël, le principal rival du premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, Benny Gantz sera chargé ce lundi de former un gouvernement après avoir reçu le soutien d'une majorité de députés, a annoncé dimanche la présidence. La Minute Éco, Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, le patron belge d'Eurobank a été incarcéré vendredi dans une prison de Kinshasa dans le cadre des enquêtes sur des détournements présumés de l'argent public destinés aux travaux de 100 jours du chef de l'État congolais. Eurobank a ouvert un compte parallèle à travers lequel 35 millions de dollars ont été sortis en liquide selon une source judiciaire. Première banque privée de la RDC avec 1 800 collaborateurs, 400 000 clients et un total du bilan de 1,7 milliard de dollars en 2018, Eurobank précise avoir respecté toutes les réglementations en vigueur dans le pays. Elle affirme collaborer avec la justice jusqu'à ce que la vérité soit établie. Pour terminer, la semaine dernière, l'aluminium, le cuivre et l'or sont tombés à leur plus bas niveau depuis octobre 2016, sous l'effet du recul attendu de la demande chinoise. À Londres, la tonne d'aluminium pour livraison dans 3 mois s'échangeait à 1671 dollars contre 1685 dollars le vendredi précédent. La tonne de cuivre s'échangeait à 5483 dollars contre 5607 dollars le vendredi d'avant. L'once d'or valait 1565,60 dollars contre 1673,83 dollars le vendredi précédent.
L'espoir à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le sport mondial est à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus. La Confédération africaine de volleyball a décidé de reporter à une date ultérieure toutes ses compétitions africaines, y compris le beach volleyball.
Oui, il s'agit des coupes des clubs champions hommes et dames devant se tenir au Caire en avril. Les championnats d'Afrique U19 hommes et dames de beach volley à Maputo et à Tunis en mai. Et puis la suite de la deuxième phase des éliminatoires des Jeux olympiques de beach volley. Déjà la veille, la Fédération internationale de handball a aussi décidé de reporter au mois de juin ces tournois qualificatifs aux JO. Le basketball n'est pas resté indifférent face à cette situation. Et la FIBA a ainsi décidé de suspendre toutes ses compétitions. Internationale. Et cela concerne l'Africa League à Dakar qui devrait commencer le week-end écoulé.
En football, après le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, la CAF pourrait faire pareil pour le CHAN 2020.
La compétition qui devait avoir lieu du 4 au 25 avril prochain au Cameroun risque d'être annulée. Actuellement en inspection sanitaire dans le pays, l'instance du foot continental prendra bientôt une décision. Pour l'instant, plusieurs tournois de préparation à cette compétition sont annulés. Même hier, le Maroc tenant du titre a annulé son stage de préparation. La Fédération royale prendra une décision ce lundi à l'issue d'une réunion prévue dans la soirée.
Justement, le Maroc a annoncé la veille la suspension de tous les matchs de football sur son territoire jusqu'à nouvel ordre.
Oui, une annonce faite sur Twitter par la Fédération royale de football. Toutes les catégories sont concernées. Même décision au Sénégal, où les autorités ont interdit toutes les manifestations publiques pour 30 jours. Et en Égypte, la Fédération a annoncé la suspension de tous les championnats pour 2 semaines.
Tous ces reports de compétition s'enchaînent sur le continent, mais certains pays continuent de jouer au football.
C'est le cas de la RDC. En attendant la suspension de son championnat pour une durée de 30 jours à partir de ce lundi, 3 matchs ont eu lieu hier et la SV Club s'offre le derby de Kinshasa 2-0 face à Renaissance du Congo. L'équipe entraînée par Florent Ibengue est classée 2e avec 48 points. La AS Manema Union, vainqueur de Lumbashi Sport, est classée 3e. Le TP Mazembe est leader au classement avec 53 points. Suspension du championnat également en Algérie à partir de ce lundi jusqu'au 5 avril prochain. En attendant, le choc du rôle de tableau disputé hier entre l'Entente du Sétif et la JS Kabylie n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Score 0-0. C'est le CR Belouizdad qui est en tête du classement.
19e journée au Bénin et le leader Aema tombe une nouvelle fois.
Un second revers de suite. Cette fois, c'est l'AS Tonnerre de Boïcon qui l'a battu 2-1 à domicile. Et malgré cette défaite, le club d'Adjara garde la première place avec 36 points. Un de plus que Usaï, vainqueur de la Jeunesse Athlétique de Cotonou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le coronavirus continue de se propager en Afrique centrale. Un premier cas positif a été confirmé le 14 mars en Centrafrique. Pour éviter la propagation du virus, les autorités ont instauré de nouvelles mesures allant de l'interdiction des salutations à la main aux fermetures des boîtes de nuit. De Bangui, Freeman Sipila.
Selon le ministère centrafricain de la Santé, le virus a été détecté sur un ressortissant italien âgé de 74 ans. L'homme est arrivé à Bangui à bord d'un vol Royal Air Maroc le 8 mars dernier en provenance de Milan en Italie et séjourne en ce moment à Mbaïki, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale centrafricaine. Avec combien de personnes a-t-il été en contact? Ou précisément, Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé.
Des dispositions sont en cours pour la prise en charge du patient, la recherche et le suivi des contacts. Le ministère de la Santé et de la Population rassure l'opinion publique que des mesures adéquates sont prises pour réduire le risque de propagation de la maladie.
La nouvelle a créé une psychose au sein de la population. En vue de rassurer, le ministre de la Santé invite toute personne résidant en Centrafrique au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires et à signaler tout cas suspect.
Toute la population est encouragée à signaler aux autorités sanitaires toute personne présentant la fièvre, la atouts ou difficultés respiratoires avec une notion de séjour dans un pays en épidémie et ou de contact avec une personne ayant séjourné dans un pays en épidémie.
À l'aéroport international Bangui-Poco, le dispositif est renforcé allant de lavage des mains à la prise de température de tous les passagers débarquant des vols nationaux et internationaux. Catherine est contrôleuse sanitaire à l'aéroport Bangui-Poco.
Lavage des mains d'abord.
Lavage des mains. Présentement, ce sont les passagers de Nairobi. Nairobi, Douala, ils viennent d'arriver. Premièrement, ils font les lavages de mains. Après, on va prendre leur température. On va leur remettre la fiche. Si la température augmente, on les met en observation. Et on va encore reprendre la température. Si la température descend, on leur tend la fiche. Et il y a deux agents de santé qui sont là-bas pour ramasser les fiches en commun accord avec les policiers.
En plus du dispositif de surveillance à l'aéroport Bangui-Poco, plusieurs autres mesures sont prises par les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé.
Suspension des salutations à la main, interdiction des accolades et des baisers publics, installation de dispositifs de lavage de mains dans les lieux publics, fermeture des boîtes de nuit au moins pour un mois, application obligatoire de la quarantaine pour toute personne entrant sur le territoire en provenance des zones à transmission locale de l'épidémie de COVID-19 ou ayant séjourné dans de telles zones. Interdiction de tous les voyages des membres du gouvernement vers des pays à transmission locale de l'épidémie. Interdiction de tous les voyages officiels ou missions des cadres ou membres des administrations publiques et parapubliques vers des pays à transmission locale de l'épidémie.
Parmi ces mesures, les rassemblements et mouvements de masse sont également interdits. Un numéro vert est ouvert, le 1212, pour permettre d'alerter en cas de suspicion d'un malade présentant des signes semblables à ceux du coronavirus. Ne disposant ni de moyens ni de structures adéquates pour faire face à une épidémie, la République centrafricaine compte sur des pays qui en ont fait l'expérience, comme la Chine, de lui prêter main forte. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Sénégal, où 26 cas de COVID-19 sont confirmés, le président Macky Sall a annoncé des mesures préventives pour limiter la propagation de la maladie. La plus attendue était l'interdiction pendant un mois des rassemblements et manifestations. Du coup, des célébrations religieuses qui devaient accueillir des centaines de milliers de personnes vont être annulées. La sortie du chef de l'État sénégalais rassure globalement les populations, même si certaines personnes émettent des réserves. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Au centre des attentions, depuis que le coronavirus a atteint la grande cité religieuse de Touba, les chefs religieux de cette ville et du Sénégal ont tour à tour décidé de reporter ou d'annuler les célébrations. Une décision prise pour se conformer aux directives étatiques, mais pour Abel Sagna, le fond du problème demeure le mode de vie des Sénégalais.
Notre culture favorise la vitesse de propagation de la maladie. Regardons comment nous vivons. Nous nous saluons par la main, nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble le thé et nous, on est pas quasiment tout le temps ensemble. Nous sommes les plus sociables, je peux dire, de l'humanité. C'est très favorable à la propagation de la maladie.
Même son de cloche du côté de Yaya Junior Djiba qui estime que l'État doit aller au-delà de la sensibilisation par les médias. Pour ce jeune originaire du Sud, les autorités doivent prendre des mesures pratiques pour que la population intègre certaines précautions. Yaya suggère également que le contrôle ne se limite pas aux frontières, mais qu'il touche aussi les voyages à l'intérieur du pays.
Ah, tout récemment, je suis parti en Casamance. J'ai vu qu'il n'y avait pas de contrôle. À l'aller comme au retour, il n'y avait pas de contrôle. Ah, peut-être que ce sont les gardiens qui se sont un peu organisés et nous demandaient de nous laver les mains, mais du côté du Sénégal, il n'y a rien. Alors qu'il y avait le coronavirus au Sénégal.
Les avis de ces citoyens sont parfaitement en accord avec l'analyse du docteur Baba Mamoudou Ndiaye qui affirme que l'État doit anticiper et accentuer les efforts de sensibilisation envers la population afin de limiter les risques.
Mais ce sont des décisions qu'il fallait prendre depuis. Ensuite, voilà, vulgariser l'information pour que la population sache les mesures préventives. Pas seulement se laver les mains, même les portables, les télécommandes et tout. Voilà. Donc trop en faire même, c'est mieux que de ne pas en faire.
Pour prendre les devants face à certaines situations, l'État a d'ailleurs décidé de partir en croisade contre les fake news. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé des poursuites judiciaires contre ceux qui sapent l'effort de lutte nationale contre le coronavirus.
Depuis quelques jours, des vidéos circulant dans les réseaux sociaux remettent en cause la présence de cas de COVID-19 au Sénégal. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'outrecuidance de diffuser des informations mensongères. Le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la réponse nationale contre le COVID-19.
Outre l'interdiction de rassemblement dans les lieux clos ou ouverts, le chef de l'État a entre autres annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour 3 semaines, l'interdiction des bateaux de croisière, le renforcement des contrôles aux frontières et des moyens sanitaires, l'acquisition de matériels médicaux spécifiques, le déploiement d'hôpitaux mobiles par l'armée et l'annulation de la célébration de la fête de l'indépendance. Le président Sall a aussi exprimé sa solidarité aux Sénégalais de la diaspora tout en leur demandant de respecter les mesures sanitaire en vigueur. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, 8 jours après les attaques contre les villages de Dinguila, Ramdola et Barga dans la région du Nord, un mouvement de défense des droits de l'homme accuse les groupes d'autodéfense Kogluego d'être les auteurs de ce massacre. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce aussi l'attitude du gouvernement qui, selon l'organisation, n'en fait pas assez pour protéger les populations. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré.
Cette tuerie avait fait 43 victimes civiles, tous des peuls selon le collectif. Un des blessés est décédé à l'hôpital de Ouaigouya, portant le bilan à 44. Le gouvernement lui pointait du doigt des hommes armés non identifiés. Elles sont intervenues après le dam de Yirgu en janvier 2019 dans le centre-nord du Burkina. Des groupes d'autodéfense appelés Kogluego avaient fait officiellement 47 morts selon le gouvernement et 216 selon le CISC. Le 8 mars dernier, dans les villages de Dinguila, Ramdola et Barga, ces mêmes Kogluego ou gardiens de la brousse sont accusés d'avoir assassiné 43 civils. Selon le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, il s'agit d'un nettoyage ethnique car ce sont les peuls qui sont visés dans ce massacre. Daouda Diallo, porte-parole du CISC.
Pendant que justice est toujours attendue pour les 216 morts, plusieurs autres Yirgu, massacres et exécutions sommaires se sont succédés dans plusieurs parties du Burkina où la violence d'État a pris de l'ampleur avec les exécutions sommaires et extrajudiciaires commises par certains éléments de FDS, les milices Kogluego et plus récemment par les volontaires colporteurs de la violence. Le dernier Yirgu en date est celui de Barga. En effet, dans la matinée du 8 mars 2020, des Kogluego encore encerclent et massacrent des populations civiles des villages de Dengala, Barga et Ramadola. Une cinquantaine de personnes de sexe masculin ont été exécutées par une horde de criminels. Ils étaient accompagnés par des volontaires, la plupart étant des corloïgos les plus sanguinaires, selon les témoins.
Le gouvernement lui signifiait qu'il s'agit d'une tuerie perpétrée par des hommes armés non identifiés. Faux, rétorque le collectif. Les bourreaux ont bel et bien été identifiés par des témoins. Maître Ambroise Farama, avocat du collectif.
Parce que nous sommes en droit pénal. Le témoignage est un élément de preuve. Et nous avons même pris les dispositions de faire venir ici un des témoins qui a pu identifier des personnes bien connues. Et cette personne d'ailleurs a même échangé avec les membres du gouvernement.
Mais pourquoi tant de dérives commises par ces groupes d'autodéfense qui sont censés protéger les villages? Le chef Kogloweigo de la région de l'Est, Moussa Tchombiano di Django, pense qu'il y a un manque d'encadrement.
Donc on devrait être cadré de telle sorte que s'il y a un responsable dans chaque région, mais il devrait prendre ses responsabilités quand même. Aujourd'hui, on n'allait même pas souffrir de beaucoup de choses.
Justice n'a toujours pas été rendue plus d'un an après le massacre de Yergou, le plus grave de l'histoire du Burkina, qui a fait 47 morts selon le gouvernement et plus de 200 selon le CISC. En attendant que la lumière soit faite officiellement, ces dernières tueries attribuées au même groupe par des témoins viennent fragiliser le climat social au Burkina, déjà marqué par l'insécurité. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Niger, au moins 3 personnes sont mortes hier à Niamey dans un incendie à marge d'une manifestation de rue à laquelle avaient appelé plusieurs organisations de la société civile. La manifestation avait pour but d'exiger du gouvernement la publication du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale et sa transmission à la justice. Plusieurs manifestants, dont les principaux leaders de la société civile, ont également été interpellés. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le bilan et l'origine de cet incendie faisaient encore débat dimanche jusqu'à la visite sur les lieux du ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum.
Les dégâts qui ont été provoqués par l'incendie qui s'est passé ici, qui a malheureusement provoqué la mort de 3 personnes, 2 personnes à l'intérieur de l'autre côté, dans une boutique apparemment, qui ont été piégées par les feux. Une personne ici dans un atelier qui aurait pu s'en sortir malheureusement. Alors je ne sais pas qui a pu provoquer ce feu. Nous avons ouvert une enquête. La police va conduire l'enquête. L'enquête de la police va reconstituer les événements et il sera possible certainement à la fin de dire exactement ce qui s'est passé.
Dans les environs, des curieux disent pourtant que le feu a été déclenché après qu'une grenade lacrymogène ait touché le toit d'une des boutiques de cette rue marchande qui jouxte le principal centre commercial de la ville de Niamey.
C'est la police qui a mis les feux. Pourquoi la police a mis les feux? Ils ont frappé lacrymogène sur nous. Lacrymogène est parti tomber sur un hangar. Et sur le hangar, il y a tout. Voilà, moi j'ai entendu 6 mois.
C'est la police qui a lancé des projectiles sur un toit et il y a le feu. C'est une colère et ça va se continuer. C'est quand c'est le printemps du Niger qui commence. On a été séquestrés par le gouvernement. On n'a rien. On déguerpit les gens. Nos enfants ne partent pas à l'école. Il y a beaucoup de problèmes qui sont là au Niger qu'on doit s'y unir. Nous, on n'a pas un coronavirus, mais on souffre.
Pendant ce temps, la police était à la chasse aux organisateurs de la manifestation. Tour à tour, Halidou Moukela, Moussa Tiangari, Nuhu Arzika et bien d'autres sont interpellés et gardés dans les locaux de la police judiciaire.
On ne sait pas de quoi on les accuse. Tout compte fait, nous avons déposé une déclaration de manif en bonne et due forme et nous n'avons pas reçu une notification d'interdiction de cette manifestation. C'est pour ça que les gens sont sortis, effectivement, massivement. Nous resterons vigilants, c'est la résistance qui vient de commencer.
L'appel à cette manifestation avait été lancé depuis quelques jours. La quasi-totalité des forces sociales et politiques de l'opposition y ont adhéré. Vendredi, le gouvernement publie un communiqué et annonce qu'à raison de la menace de la maladie du coronavirus, tout rassemblement de plus de 1000 personnes est interdit dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sebudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.